Allocution aux jeunes gens. À vous, jeunes gens qui n'avez obtenu que tout récemment les diplômes de nos diverses institutions d'enseignement, je souhaite apporter un message. Un message qui est en même temps un avertissement et pourtant un message réconfortant. Depuis tout un mois que vous êtes dans le monde, il est grand temps que vous appreniez un peu ce que sont les réalités de la vie et la façon merveilleuse dont la nature prend soin des mille et une choses qui contribuent à former ce que certaines personnes appellent en plaisantant la vie sexuelle. Donc, vous avez tous vu sans doute au cours des promenades que vous avez pu faire à la campagne la façon dont les papillons et les abeilles transportent du pollen d'une fleur à l'autre. C'est extrêmement monotone et vous devriez vous estimer heureux de ne pas être une abeille ou un papillon. Néanmoins, ils sont persuadés qu'ils s'amusent beaucoup et c'est le principal, je suppose. Un jour ou l'autre, une abeille tombera sur un livre sérieux abordant le sujet et à moins que je me trompe, on assistera à une drôle de crise dans la manutention du pollen, ça je peux vous l'assurer. Quoi qu'il en soit, si vous avez soigneusement observé la façon dont les abeilles transportent le pollen de fleur en fleur, et puis pourquoi est-ce que vous ne l'auriez pas soigneusement observé, après tout, il n'y a rien à voir, eh bien vous êtes certainement demandé quel rapport il pouvait y avoir entre ce processus et celui de la reproduction animale. Eh bien, rassurez-vous, il n'y en a strictement aucun. Aussi, toute votre matinée passée à épier les abeilles aura été perdue, c'est tant pis pour vous. Bon, nous arrivons maintenant au règne animal. Plus exactement, on arrive pour commencer 125e rue, mais c'est pas là qu'il faut descendre. Voilà, la station suivante, le règne animal, et vous descendez. Quel spectacle s'offre à vos yeux, mon Dieu! C'est comme si le monde entier se mettait à marcher sur la tête. La prochaine fois que vous irez acheter une bouteille de gin chez votre épicier, jetez donc un coup d'œil à ses œufs. En réalité, ce ne sont pas les siens, ce sont des œufs de poule, mais enfin, ils lui appartiennent quand même, il a le droit de les vendre, si vous voulez. Ce sont donc ses œufs, si bizarre que ça puisse vous paraître. Bon, en regardant ses œufs, vous apercevez qu'ils sont tous à peu près ronds, mais pas tout à fait. Ils sont plutôt genre ovales. Ceci peut vous paraître curieux à première vue, mais ce sentiment disparaîtra dès que vous aurez appris que c'est ce que la prévoyante nature a prévu pour qu'on puisse les distinguer proprement des grosses balles de golf. Eh oui, comme vous voyez, notre mère nature n'a rien laissé au hasard. Ça lui est pourtant arrivé, oui, de temps à autre, enfin depuis, elle a bien retenu la leçon. C'est une leçon que vous devrez également apprendre. Ça s'appelle la leçon de notre vieille mère nature. Elle commence page 145. Leçon de notre vieille mère nature. Mais ces œufs n'ont pas toujours été comme ça. Ça tombe sous le sens. Il y a eu un temps où ils ont eu quelques rapports avec les poules. Autrement, on les appellerait pas des œufs de poule. Et si ce sont des œufs de canne, ça signifie qu'ils ont eu quelque chose à voir avec une canne. Maintenant, qui va me dire ce que sont des œufs d'autruche? Eh oui, c'est ça. Et là, fais pas le seul à avoir quelques rapports avec la poule. Qui d'autre alors? Qui peut répondre? Mais oui, le coq est un oiseau entièrement différent de la poule. Il est très orgueilleux, il porte une crête rouge au sommet de la tête. Cette crête rouge a été placée là par la nature, de façon que la poule puisse le voir arriver d'assez loin dans la foule et sauter dans un taxi ou donner un rendez-vous à quelqu'un d'autre juste avant qu'il arrive. Une des ruses favorites de beaucoup de poules, quand elles voient la crête rouge du coq traverser la cour dans leur direction, c'est de simuler une migraine. Mais avant d'aborder cet aspect du problème, car c'en est un, tournons-nous vers le royaume des poissons. Les poissons sont probablement le plus mauvais exemple qu'on puisse choisir. D'abord parce qu'ils opèrent sous l'eau, et ensuite parce qu'ils ne savent rien. Ils savent rien, il n'y a pas un poisson sur un million qui soit assez sensé pour simplement se mettre à l'abri quand il pleut. Ils sont tout simplement idiots, et leur idiotie apparaît jamais de manière aussi flagrante que dans leur vie sexuelle. Prenez la carpe, par exemple. C'est un des poissons les moins prometteurs de tous. Elle n'a pratiquement pas de front, elle n'a aucune conversation. Alors voici donc notre carpe, en train de nager par un beau jour de printemps, lorsqu'elle décide brusquement d'avoir des enfants. Alors elle remplit une fiche, elle dépose 1 ou 2 millions d'œufs sur un rocher, tout ceci se passant sous l'eau, oubliez pas. Oh, quelle idée. Enfin, ceci dit, elle rajuste son chapeau, elle met un nuage de poudre sur son nez, elle repart à la nage, chargée à présent d'un passé. Le mâle, lui, n'entre dans le tableau qu'une fois que tout est terminé, uniquement à titre officiel. Son travail se réduit à assez peu de choses. Il se contente de nageoter au-dessus des 2 millions d'œufs en essayant, par la seule force de sa personnalité, d'en persuader une douzaine de se développer. Le reste va à la poubelle ou bien est peint en noir pour imiter le caviar. Bon, vous voyez bien que la vie sexuelle d'un poisson a rien de particulièrement glorieux. Elle ne saurait constituer un problème au sein d'une communauté comme c'est le cas dans la nôtre. Aucun comité a jamais été prévu pour la réglementer, et un poisson ne peut pas mal tourner à moins qu'il ne vole ou s'adonne à la boisson. Vous conviendrez que ça rend la vie de poisson extrêmement peu divertissante, car au bout d'un certain temps, on doit en avoir assez du vol et de l'ivrognerie. Nous avons donc passé en revue quelques-uns des agencements prévus par la nature en vue du peuplement de la Terre. Nous avons évité exprès toute allusion à la reproduction des organismes monocellulaires, qui se reproduisent par division successive en 2, 4, 8, 16 morceaux sans aucune assistance extérieure. Cette pratique est trop grotesque pour faire l'objet d'aucune description digne de ce nom. Bon, passons maintenant aux couleurs. Vous savez tous qu'en mélangeant du bleu et du rouge, on obtient du vert. D'habitude, on ne considère pas l'obtention d'une couleur à partir du mélange de deux autres comme étant un phénomène sexuel, mais c'est seulement parce que les psychanalystes n'en sont pas encore arrivés là. Attendez un peu. La seule chose à laquelle les psychologues freudiens n'arrivent pas à trouver des significations sexuelles, c'est le tir au pigeon. Et encore, ils étudient la question à l'heure qu'il est. Ceci nous amène au point de vue où on se demande si tout ça n'est pas un vaste canular. Si les spécialistes se cassent le nez sur le tir au pigeon, ils vont commencer à mettre en doute toute la structure qu'ils ont élaborée, et on assistera sous peu à une réaction qui risque de prendre la forme d'une négation absolue de la sexualité. Un savant autrichien a déjà déclaré que la masculinité et la féminité n'existent pas à l'état pur. Si c'est vrai, elle a réellement un grand pas de fait. Beaucoup de gens vont se trouver au chômage, mais pensez à l'économie qu'on va pouvoir réaliser. Aussi, jeune gens, mon message sera-t-il le suivant. Réfléchissez mûrement au problème et examinez-en les données avec un noble détachement. Et si vous en concluez que la sexualité va passer de mode dans les 10 années qui viennent, faites vos plans en conséquence. Pourquoi ne seriez-vous pas les pionniers de ce nouveau mouvement?